sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Et je salue d'entrée de jeu son président, directeur général, Donald Olivier. Ça va, Donald?
Oui, merci. Bonjour,
Marc. Un petit peu de neige aujourd'hui pour commencer notre émission.
Effectivement, comme skieur, je suis pas trop fâché, mais je sais que la plupart des gens sont tannés.
Oui, c'est ça. Donc, avant de saluer notre invité en studio, parce que nous avons encore un invité en studio cette semaine, on est vraiment privilégiés. Alors, avant de le présenter pour le sujet du jour, je tiens à rappeler que pour transmettre vos questions, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes et de cliquer sur « Poser vos questions ». On peut le faire par texto, par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Donc, avant de présenter notre invité Donald, nous allons revenir sur des sujets d'actualité. Bon, dans les derniers jours, l'économiste Frédéric Loret a quand même fait une sortie pour dire bon qu'avec faillite de Northvolt, les arrêts temporaires chez EcoPro, il mettait ça un petit peu dans le même contexte pour dire que finalement, c'est pire que ce qu'il avait prévu par rapport à la filière batterie. Ben, comment on réagit par rapport à cette déclaration-là de ton côté?
Ben, c'est sûr que c'est pas moi qui ai discuté avec Frédéric. Si je l'avais avec moi, j'aurais posé la question. Mais Frédéric, qu'est-ce que tu avais prévu? Parce que le contexte économique, c'était assez imprévisible. Donc, toute la dynamique de tarification et tout ça, personne ne l'avait vu venir. Et puis, finalement, les projets, en tout cas, les projets de Bécancour vont relativement bien. Oui, EcoPro est sur pause. Mais de l'autre côté, on a EcoPro Inno qui annonce un partenariat de la recherche et développement dans la région. Donc, c'est sûr que la question, tu sais, pour moi, je fais du développement économique, mais je suis ingénieur de formation, fait que je n'ai pas toutes ces connaissances, mais il y a quand même des fois des logiques qui méritent d'être discutées. Tu sais, donc, les PME de la région ou du Québec, c'est-tu mieux qu'ils fassent affaire avec des grandes entreprises de l'autre côté de la frontière, aux frontières, ou on est mieux d'avoir aussi des entreprises quand même assez grosses ici pour avoir moins d'exportations? Fait que le chiffre qui revient souvent, c'est 70% des gens qui exportent aux États-Unis. Fait que moi, je pense que d'avoir un équilibre entre des entreprises de plus grande envergure et des PME, c'est ce qu'il faut tendre. Et puis, je ne suis pas économiste, je le dis encore, mais moi, c'est ce que je vois. Puis, je pense que les PME, d'avoir un équilibre entre dépendre d'entreprises américaines ou canadiennes, je pense que tout le monde va vouloir être un peu plus conservateur et avoir des liens plus au Québec. Et puis, clairement aussi, je ne sais pas si c'est lui qui a amené le point ou la journaliste, mais on parlait dans le cadre des EcoPro qu'on n'avait peut-être pas pour notre argent. Moi, je veux juste rappeler aux auditeurs qu'il n'y a pas un sou qui a été versé encore. Mm-hmm. C'est donc EcoPro, le chantier qui surpose, les sommes que le gouvernement, les prêts, tout ça, viennent plus tard. Ça fait que donc, aujourd'hui, on n'a pas mis, les Québécois n'ont pas mis d'argent dans ce projet-là. Oui, il y a un engagement d'en mettre si le projet va de l'avant et tout ça, mais c'est différent d'un autre vol. Ça fait que donc, peut-être juste, pour moi, c'est important d'expliquer cette nuance-là.
Merci, Donald. Et l'émission permet justement de faire ça. Mais aussi, notre émission, Le Parc en 30 minutes, permet de découvrir les entreprises du parc aussi. Et on en a une belle encore aujourd'hui à faire découvrir à nos auditeurs et auditrices. Alors, je te laisse le plaisir de nous présenter notre invité aujourd'hui.
Oui, ben c'est une entreprise, je pense, je ne sais pas si c'est la plus méconnue, mais une des plus méconnues probablement du parc. Et puis, vous allez probablement tous être surpris quand vous allez entendre tout ce qui se passe dans cette entreprise-là. C'est Service de transformation Bécancour. Donc, on a Danny Boudreau qui est avec nous. Danny qui a plein de rôles chez Service technique Bécancour. Donc, bienvenue, Danny.
Merci.
Et puis, peut-être juste pour les gens, j'ai fait une erreur la semaine passée, je disais qu'avant ça, chez STB, c'était Béragui, mais non, c'est Didier qui s'est installé là à l'époque, et puis que Danny va nous expliquer, mais l'entreprise pour qui il travaille a racheté les installations, et puis cette usine opère encore aujourd'hui.
Mais ça demeure quand même une des plus vieilles entreprises du parc, ça.
Oui, début des années 70, donc vraiment, c'est là depuis quand même assez longtemps.
Donc, ça vaut la peine de la découvrir, et donc, c'est ce qu'on va faire avec notre invité Danny. On s'est entendu pour se tutoyer, notre ami Danny. Donc, pour faire l'histoire de cette entreprise-là, parce qu'on aime bien, notre émission, connaître l'histoire des entreprises du parc, peut-être nous ramener vers les débuts de STB, puis voir un petit peu c'est parti de où. Il y a eu l'évolution, évidemment, changement de propriétaire, quand même aussi dormance, etc. Donc, je te laisse aller avec l'historique, là.
Oui, l'usine, au tout début, c'était une usine pour le réfractaire qui a été construite en 1976 par l'entreprise Didier, une corporative allemande, qui était pour faire du réfractaire pour toutes les aciéries. Puis leur marché, c'était pour couvrir l'Amérique du Nord au complet.
C'était différents types de briques, hein, différentes formes de briques et tout ça dans le réfractaire?
Oui, on faisait au-dessus de 5000 formats de briques, puis il y avait 80-90 mélanges différents de produits qu'on pouvait faire avec le temps, puis des produits spécialisés. Donc, on alimentait ou on approvisionnait les usines comme RTFT à Sorel, comme Mittal, comme ABI était un de nos clients dans le temps. En 2008, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise au niveau de l'acier. Les commandes ont chuté drastiquement. L'entreprise globale détenait 26 usines. Donc, notre carnet de commandes n'était pas assez élevé pour maintenir les opérations dans notre usine. Donc, on a été en dormance pendant une période de temps. Puis, le marché n'est pas revenu en Amérique du Nord. Donc, là, la compagnie, la maison mère en Autriche, à ce moment-là, a décidé de fermer, d'arrêter les opérations complètement. Puis on avait reçu la directive de démanteler l'usine et d'enlever le bâtiment un peu comme ce qui s'est passé pour Norsk Hydro.
Donc on a failli perdre une entreprise autour de 2008-2010, si je comprends bien.
Oui, puis dans cette période-là, le contexte économique n'était pas florissant comme actuellement pour le parc. Puis dans le processus d'appel d'offres pour démanteler l'usine, le propriétaire actuel a entendu parler de nous. Puis là, les démarches ont débuté. Quand on débute des démarches, surtout avec l'international, ça prend beaucoup de temps. Fait que ça a pris au-dessus d'un an avant d'arriver à une entente finale, puis le transfert de possession au propriétaire actuel, un monsieur de Sorel. Donc c'est un propriétaire unique à Sorel qui a acheté l'usine. Puis on n'avait aucune commande. Quand on a parti l'usine, là, on avait aucune. C'est vraiment une page blanche. Puis le propriétaire avait une vision pour faire de l'agglomération, pour faire de la revalorisation de sous-produits. Fait que là, on a débuté les recherches puis les tests. Puis on s'est bâti une clientèle au fil du temps. Puis là, on a une clientèle assez stable. Puis on continue tout le temps à se développer, chercher des nouveaux marchés. Avec l'arrivée de la filière batterie, il y a de nouveaux services qu'on a développés puis qu'on offre. Comme on sert d'entreposage puis de distribution pour les équipements de production de la construction de l'usine d'ultium de GM. Puis on est approché par plusieurs entreprises déjà dans le parc pour leurs sous-produits pour après en production, quand ils vont être en mode production, pour revaloriser leurs sous-produits.
Donc, on parlait tantôt, filière batterie, la mise en doute un petit peu de la pertinence quasiment de la filière batterie, mais on voit quand même un effet très concret aujourd'hui, Donald, des bénéfices. Là.
C'est des joueurs plus importants qui amènent des opportunités pour des petites et moyennes entreprises. Peut-être juste, tu sais, parce que on va parler, c'est de l'économie circulaire que vous faites, Danny.
Oui.
Mais tu sais, le premier geste d'économie circulaire, ça a été de revaloriser l'usine.
Oui.
Donc, parce que tout ça aurait pu aller à la ferraille, parce que c'est pas mal ça qui serait arrivé. Là, je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de choses de récupérer. Mais tu sais, ce que tu nous disais, puis peut-être réagir là-dessus, je pense que c'est environ 80% des équipements que Didier avait que vous utilisez encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier geste d'économie circulaire que vous avez fait en achetant.
Oui. La majorité des équipements, presque 90% des équipements sont restés sur place. Il n'y a eu rien de démantelé. C'est sûr qu'il y a eu des adaptations pour répondre aux procédés pour faire la revalorisation. Sauf que là, dans les 20% qui ne sont pas utilisés actuellement, à peu près, on est approché actuellement là, pour les remettre en marche. Fait qu'on est en discussion, là. Puis au train où ça va, là, je dirais en 2026, là, on va utiliser toutes les lignes de production disponibles à notre usine.
Oui, peut-être, si on parle de revalorisation, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que les entreprises qui vous approchent, souvent, le choix qu'ils ont, c'est puis il est quand même coûteux d'envoyer ça à l'enfouissement, mais vous permettez que ça n'aille pas à l'enfouissement, que vous récupérez, que vous revalorisez, que vous revendez ces matériaux-là. Donc, c'est un peu ça. Fait que quand on parle de revalorisation, c'est carrément une entreprise qui a un produit secondaire qui n'est pas capable de vendre, mais vous le récupérez, puis vous en donnez une vie, une deuxième vie, puis une valeur.
Oui, puis souvent, on fait aussi du service. Quand on parle de revaloriser, souvent le client il va nous apporter un produit que dans l'état qu'il a, il ne peut pas le réintroduire dans son procédé. Puis nous, on le transforme, c'est pour ça qu'on appelle ça du service, puis on le retourne à ce même client-là, qui récupère sa valeur métallurgique, la valeur des métaux, puis que lui, ça lui fait, c'est moins cher que la disposition. Fait qu'en bout de ligne, il est deux fois gagnant, si on peut dire, là, parce qu'il récupère la valeur du matériel, puis il sauve les coûts de disposition.
Oui, fait que d'un point de vue économique, c'est intéressant. Puis au niveau de son bilan environnemental aussi, c'est doublement intéressant.
Oui. Puis, tout comme il y a d'autres entreprises qui, eux, sont prêtes à reprendre leurs produits chez eux pour en donner une deuxième vie, bien, nous, on a un réseau de contact avec d'autres clients qu'on est capable de réutiliser ces produits-là, faire d'autres produits, puis envoyer ça sur un autre client. Fait que, en bout de ligne, tout ce qui rentre chez STB, si on ne va pas aux déchets, il est tout le temps envoyé, dirigé vers un client et on a toujours une porte de sortie qu'on est capable de trouver.
Je trouve intéressant aussi, quand même, c'est pas banal que... Une usine a failli fermer, puis bon, aujourd'hui, c'est une usine qui fonctionne avec diversification des services et vraiment une synergie qu'on va développer aussi après la pause par rapport aux autres entreprises. Mais Donald, tu es là en poste depuis une couple d'années à la Société du Parc, mais quand même, dans l'histoire du parc industriel, je pense pas qu'on en a vu souvent des entreprises qui ont failli fermer, puis que finalement, ont survécu à des fermetures quasi... potentiel. Alors, c'est quand même un cas unique, pratiquement ou presque.
Bien, d'avoir récupéré les équipements, je pense que oui, parce que, tu sais, on a tous, tu parlais de la période où c'est arrivé, mais, tu sais, on sait que Norsk Hydro est arrivé un petit peu avant ce crash-là. Ouais. Tu sais, 2006, je pense que Norsk Hydro sont sortis. Vous, c'est arrivé après. On se souvient que l'annonce de fermeture de Gentilly 2, c'est 2012. Donc, c'est comme une mauvaise nouvelle qui a été évitée dans un sens, et parce qu'il y a d'autres sites, là, donc peut-être qu'il y en a qui ça va lui dire de quoi, mais recyclage d'aluminium aussi, mais tu sais, c'est pas tant le procédé ou les équipements qui ont été réutilisés plutôt que les actifs, le terrain puis le bâtiment. Donc, mais vraiment de récupérer, de remettre en service des équipements de production, c'est vraiment, vraiment génial ce qui se fait là. Puis, tu sais, c'est vraiment une façon aussi, je pense que votre propriétaire est assez audacieux, hein? Tu sais, donc, il est assez à l'affût des opportunités. Donc, vous offrez plein de services aux entreprises du parc. Puis, j'irais même jusqu'à dire que je pense qu'il y a des entreprises du parc qui sont déjà là depuis un bout de temps, qui vous connaissent plus parce que vous brassez plus d'affaires là, depuis quelques années. Là.
Oui, puis même, on se fait approcher pour des services des fois qu'on n'a pas les équipements. Puis, s'il y a un potentiel, puis le propriétaire est assez ouvert là-dessus pour faire installer des lignes pilotes, faire des essais à notre usine pour développer un procédé pour pouvoir revaloriser leurs produits, là. On a travaillé avec Nemaska dans la période de temps où il y avait l'usine pilote à Shawinigan. Il y avait besoin de calciner. On avait l'équipement, il n'était pas installé. Fait qu'on a fait l'installation, puis on a travaillé avec eux pour faire le développement. Puis c'est ce qui a aidé un peu à Nemaska à choisir leur technologie pour bâtir l'usine actuelle.
Puis aussi, Danny, tu parlais d'un propriétaire de Sorel, c'est Minéro Martin, l'entreprise?
Le propriétaire, c'est M. Baudouin. Il est propriétaire de deux entreprises, Minéro Martin puis STB.
D'accord. Puis, sa vision du propriétaire actuel pour la suite des choses, vous faites affaire avec le monde de la métallurgie. Est-ce qu'on peut parler de sa vision pour le futur?
La vision pour le futur du propriétaire, c'est tout le temps de servir l'industrie. C'est sûr qu'au tout début, il servait principalement la métallurgie. Sauf que là, avec la filière batterie, il y a d'autres secteurs qui s'ouvrent à nous. Nous, on a la proximité. Puis c'est tout le temps l'idée d'offrir un service complémentaire aux usines à proximité le plus possible. Des services complémentaires qu'eux, ce n'est pas leur core business. Mm-hmm. Puis que là, on développe sur des projets pour livrer du matériel à temps, recevoir grande quantité, puis livrer juste à temps. Puis toutes sortes de procédés comme ça qui fait que ça aide les industries à se concentrer sur leur objectif de production primaire.
Alors, fort intéressant. On en découvre pas mal sur STB, vraiment, comme je le disais avant qu'on entre en onde, même comme journaliste, je connaissais plus ou moins l'entreprise. Puis je suis pas sûr que les gens de Bécancour, puis les environs, puis même peut-être du parc industriel connaissent pas autant qu'on devrait votre entreprise. Donc, c'est fort intéressant. Puis après la pause, on va voir avec vous, avec toi, Danny, à quoi ressemble l'équipe de STB. Aussi, Qu'est-ce qui s'en vient, volet transformation? On en a parlé un peu déjà des synergies industrielles, mais on développera davantage on invite en attendant les gens à nous écrire, à poser vos questions en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Cliquez sur « Poser vos questions » ou sinon par téléphone à 819-519-9050, 819-519-9050. Posez vos questions et on revient tout de suite après la pause pour cette belle entrevue avec Danny Boudreau de Service de transformation Bécancour, communément appelé STB, mais aussi avec Donald Olivier de la SPIP.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec notre invité Danny Boudreau, qui s'occupe de recherche et développement à Service de transformation Bécancour STB. Mais avant de revenir avec Danny, j'aimerais ça, Donald, que tu t'expliques aux auditeurs et auditrices, mon STB, c'est situé où dans le parc industriel?
Oui, c'est vis-à-vis la deuxième lumière. Donc, il y a les bureaux de la SPIB, la Société du parc, là, qui sont au coin de la deuxième lumière. C'est du côté nord de l'autoroute. Et puis, on voit, il y a comme une tour, là, on voit les initiales STB.
D'accord.
Donc, les gens souvent savent où est l'usine Greentone de cannabis, mais c'est un petit peu plus à l'ouest.
D'accord.
Un petit peu plus à l'ouest et c'est pas directement visible du bord de l'autoroute. Donc, c'est près du chantier d'air liquide, un des chantiers actuels de la filière batterie. Donc, c'est tout juste à l'arrière et voisin.
Donc, STB, on en a parlé au début d'émission. Revalorisation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de revalorisation?
Oui, un des bons exemples, c'est Rio Tinto à Sorel. Ils ont des dépoussiéreurs dans leur procédé qui récupèrent toutes les fines de leur procédé. Puis les fines sont trop volatiles pour être introduites dans leur procédé. Dans le passé, communément, ce qu'on appelait des lagunes, donc c'était enfoui. Puis là, avec le procédé qu'on a développé d'agglomération, les fines nous sont acheminées. On fait une brique, 8, 10, 15, 20 livres, qui s'est retourné, puis ils font fondre ça. Le liant qu'on prend pour que ça se tienne, que ça fasse un gâteau, c'est un liant organique. Donc, ils récupèrent 100% de leur matière première, leur unité de fer. Puis, il n'y a aucune slag ou aucun débris qui est généré à la fonte de notre produit. Comparativement à notre compétition qui vient des États-Unis, qu'eux, ils agglomèrent avec du béton. Que le béton, quand le métal est fondu, le béton remonte au-dessus en flottaison.
Donc, c'est un bel exemple de revalorisation.
Oh, oui.
Okay. Puis aussi, bon, chez vous, STB, ça ressemble à quoi l'entreprise, nombre d'employés?
L'entreprise, c'est une entreprise d'une trentaine d'employés. La maison mère, au niveau des finances et des achats, est à Sorel. Moi, je suis basé à Bécancour. On est l'équipe de production. Puis au niveau des services qu'on peut offrir, on offre du tamisage, on offre du broyage. On est capable de faire du changement thermique, agglomération, mon Dieu, séchage, ensachage, okay. Entreposage aussi de produits, distribution, puis on a tous les services, surtout avec les usines qui s'en viennent, là, on a la voie ferrée, on est capable de charger à l'intérieur, on a une voie de transbordement à l'intérieur de l'usine qu'on est capable de charger et décharger des wagons.
Ça montre l'importance des infrastructures dans le parc aussi, puis pour les entreprises, hein, Donald.
Oui, effectivement. Donc, ils sont très bien situés. Puis, bon, avec le propriétaire précédent, il y avait déjà beaucoup d'infrastructures de disponibles. Puis là, ils les exploitent. Fait que donc, c'est génial. Là.
Donc, le volet transformation, on en a parlé un peu. Bon, ouais. Quand même, c'est important chez vous. Mais recherche et développement, bon, tu es affecté au recherche et développement. Donc, un secteur, j'imagine, très important pour essayer toujours de trouver des choses innovantes pour la suite des choses.
Ben, vu qu'on est dans le domaine de la revalorisation, on est beaucoup sollicité pour remettre en circulation les produits. Donc, la recherche est axée principalement là-dessus. Il y a des sous-produits des grandes entreprises comme Rio Tinto, Alcan, qui nous ont approchés pour revaloriser un sous-produit. C'est une boue. Puis là, on est en train de développer des équipements pour permettre la réutilisation. Dans ce cas-là, ça va être les aciéries qui vont pouvoir réutiliser ce produit-là parce que c'est en pénurie actuellement. Mais autre que nous, il n'y a personne d'autre qui fait cette transformation-là. Fait que c'est un gros challenge parce que c'est pas documenté. On va être les seuls dans le monde à faire ça. Puis c'est beaucoup de projets de recherche comme ça. Aussi, on est approché pour faire des usines pilotes pour des nouvelles compagnies qui veulent s'installer. Puis au lieu d'investir dans un bâtiment, puis toutes les infrastructures où on a des espaces qu'on peut accommoder, puis qu'on peut faire les installations de leur mini ligne de production, qui puissent prouver la fonctionnalité de leur concept. Puis après, ben là, ils vont pouvoir développer. Ce que ça a de bon, c'est que pour ces entreprises-là, ça accélère énormément au niveau du développement du proof of concept, de prouver que le concept fonctionne. Puis ça réduit considérablement leur investissement de départ. Puis avec ça, se rattachent tous les services connexes qu'on a dans une usine, donc un atelier d'usinage, on a une équipe en électricité, on a des soudeurs, on a des mécaniciens. Donc, s'il arrive un pépin sur la ligne pilote, ben, au lieu de faire affaire avec l'extérieur puis avoir des délais de 2-3 semaines avant que ce soit réparé, ben, ça peut être réparé sur le champ puis ça accélère au niveau de développement d'usine pilote.
Donc ça, ça fait vraiment partie des projets futurs ou c'est déjà actuel, ça?
On est en discussion avec plusieurs entreprises dans ce créneau-là. Puis il y a dans le passé, ce qu'on a fait, comme j'ai expliqué tantôt, au niveau de Nemaska Lithium, le four qu'on a installé, c'était ça. Puis on a aussi fait des installations pour Elkem, Chicoutimi, qui font des alliages de ferro-silicium. On a réussi à combiner deux opérations de tamisage dans une seule ligne de production. Ça augmente l'efficacité. Puis on va encore chercher plus de matériel vendable aux clients dans une seule étape de production. Wow. Ça, c'est du développement à long terme.
C'est assez vaste. Je ne sais pas si les auditeurs se demandent, c'est quoi qu'il y a comme formation, lui, dans la vie, Danny, là, parce que il me semble que ça a l'air compliqué son affaire, mais Danny a une formation en génie industriel, donc est ingénieur industriel. Donc, évidemment, il y en a quand même beaucoup de besoins reliés à ce créneau-là dans le parc, mais tu sais, puis toi, ce que le propriétaire actuel a eu la chance, c'est que tu as suivi le bâtiment, tu étais à l'emploi de Didier à l'époque, et puis tu connaissais très bien les équipements et tu as suivi cette entreprise-là. Ça fait que donc, c'est vraiment une chance qu'ils ont de t'avoir avec la connaissance que tu as et puis l'énergie que tu mets dans tout ce dossier-là. Là.
Aussi pour Danny puis l'entreprise STB, donc on voit vraiment que là, il y a un rayonnement aussi, il y a une synergie avec les joueurs présents et futurs du parc industriel. Donc,
Oui. Puis une autre de nos forces, quand on regarde les grosses entreprises, c'est notre rapidité, notre vitesse de réaction quand on a une demande, là.
Qu'on est capable ça, c'est important là, de se virer de bord là, rapidement, comme on dit.
Oui,
j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. parce que tu sais, effectivement, quand on veut les opportunités, quand ils arrivent, là, des fois, tu n'as pas 6 mois, tu n'as pas 2 ans pour les saisir. Des fois, c'est des semaines, des mois, là, mais pas des années. Et puis, STB, mettons, si j'exclus les entreprises de service du parc, c'est-à-dire qui ont, mettons, des machines outils, des trucs comme ça, on peut dire que STB, c'est un industriel. Donc, ils ont des équipements. STB, c'est le seul industriel du parc à être d'intérêt québécois. Donc, les autres ont tous des sièges sociaux, Houston, Texas, Madrid, en Espagne ou peu importe où dans le monde. Donc, la rapidité, quand ils parlent de rapidité, il faut comprendre que c'est la rapidité aussi de prendre les décisions. Donc, du propriétaire de dire « oui, j'investis dans ce créneau-là, je pense qu'il est porteur » ou « non, je n'investis pas ». Donc, le fait d'avoir un investisseur québécois, c'est sûr que ça réduit les délais. T'sais, j'imagine que souvent, les discussions se passent à 8-9 heures le soir, dire « go, on y va-tu pas » puis là, on a un alignement de prix. Donc, ça amène une vélocité. Puis c'est pas la réalité des entreprises du parc, habituellement, sont d'avoir un bureau chef qui est dans un autre pays, un autre continent, ce qui complexifie un petit peu parfois, ce qui rend plus long les délais pour prendre des décisions.
Et plus que jamais, on se doit d'être agile dans le domaine des affaires. Donc, puis à ce sujet-là, on peut pas ignorer ce qui se passe actuellement avec la guerre tarifaire. Bon, en quoi STB est impacté ou pas avec toute cette tension-là au niveau de la géopolitique puis de l'économie, surtout avec nos voisins du Sud, là?
C'est pour nos clients américains actuellement, vu qu'il y a certains de nos produits qui ne sont pas encore touchés par les tarifs, certains ont devancé leurs commandes justement pour ne pas être impactés.
D'accord.
Mais la contrepartie, je dirais, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises au Québec qui servirent vers nous comme solution alternative au cas où il y aurait des tarifs d'implanter puis qui les affecteraient, puis qu'on pourra faire une certaine transformation pour réduire leurs coûts. Donc, on deviendrait une source alternative. Puis nous, on travaille là-dessus là, pour les fournir du mieux qu'on peut. Puis, chose qui va être bonne, c'est qu'on sait que toutes les entreprises, une fois que le chemin va être tracé pour venir à Bécancour pour produire, quand les barrières tarifaires vont tomber, ben, peut-être que les entreprises vont devenir plus frileuses à retourner aux États-Unis vu le service qu'on offre. Là.
Donc, un bel exemple de menaces et d'opportunités, c'est que oui, il y a des menaces, mais manifestement, il y a des opportunités pour rester bien dans le contexte actuel.
Oui, c'est là que l'agilité ou la rapidité de réaction rentre en ligne de compte, parce qu'on... M. Trump, quand il prend une décision, d'habitude, ça se joue en 15 minutes. Là. Fait que nous, faut en servir à de bord puis répondre aux clients assez rapidement.
Puis même l'absence de prise de décision, juste des tweets ou des entrevues qu'il fait, même sans décision, ça crée de l'instabilité puis de l'insécurité. Ça fait qu'avant même les décisions, il y a vraiment une précarité. Ça fait que ce qu'on comprend de ton côté, Dany, c'est qu'à date, ça se traduit beaucoup plus en opportunités potentielles, ces opportunités qui pourraient arriver avec toute cette tension-là.
Oui, oui, oui. Puis nous, de notre côté, on est prêts. On voit ça venir, puis on se prépare. Il y a des développements qui sont faits sur le terrain en prévision d'installation de nouveaux bâtiments, que si l'opportunité se présente, ben, on réduit le délai de réaction.
Donc, ce qui s'en vient pour STB, c'est quand même stimulant, parce que là, hey, on l'a vu durant l'émission, vraiment, c'est assez éclaté comme service, comme opportunité d'affaires, tout ça. Donc,
Ah oui, quand on parle de service là, pour le propriétaire, c'est si vous avez besoin de quelque chose, appelez-nous en premier. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas.
Ben oui, puis tu sais, ça va vraiment, tu sais, le parc dans le plan d'action, dans le plan stratégique, on veut avoir des projets de décarbonation de technologies vertes. Tu sais, STB ben ouais. Carrément dans ce créneau-là, c'est-à-dire qu'on projette technologies vertes dans le sens qu'on revalorise des trucs qui auraient été ailleurs ou qui auraient fait des centaines de kilomètres pour être traités au lieu de faire 3-4 kilomètres en étant dans le parc industriel directement. Donc, ça s'insère vraiment dans la vision vue par la SPIB. Là.
Ce qui me fait dire que si STB n'existait pas, il faudrait l'inventer en 2025. On en aurait besoin.
Oui, oui.
On en a besoin, effectivement. Ben, écoute, le temps passe vite, Dany, déjà presque à la fin de l'émission. On te remercie beaucoup pour vraiment l'explication, un petit peu. Qu'est-ce que Service de transformation Bécancour? On comprend mieux maintenant qu'est-ce que vous faites au niveau de l'entreprise. Quels sont les projets futurs, même qu'est-ce qui se développe présentement en lien aussi avec la filière batterie. Donc, Donald, ce qu'on a entendu ce midi, c'est vraiment encourageant.
Oui, oui. Moi, je connais Dany depuis que je suis arrivé. Fait que, tu sais, quand je suis allé voir l'usine, j'étais impressionné, là. Ben, impressionné par la polyvalence de Dany. Donc, je disais, moi, tu m'impressionnes, un ingénieur avec du big bill d'une usine. Moi, je trouve que c'est un super beau modèle. Et puis, je connaissais plein de choses. Puis, j'étais vraiment surpris d'avoir l'ensemble d'activités, la diversité d'activités qu'il y avait dans cette usine-là. Puis j'étais surpris à quel point il avait récupéré les équipements qui servaient à dédier à l'époque et puis qui s'étaient valorisés aujourd'hui. Donc vraiment, pas besoin de faire grand éclat pour avoir du succès. Et puis vous êtes méconnu, mais ça ne vous enlève rien dans le sens que vous faites votre chemin assurément très solidement.
Bien, merci beaucoup, Dany. Merci beaucoup, Donald, donc pour cette autre émission. Le parc en 30 minutes, c'est déjà la fin. Alors, on vous invite, chers auditeurs et auditrices, durant la semaine. Et n'hésitez pas à nous écrire, à poser vos questions en allant sur le site via.fm, onglet Le parc en 30 minutes. Cliquez sur poser vos questions par téléphone, texto, 819-519-9050. La semaine prochaine, on parlera d'économie avec Miguel Ouellet de Mallette. Et je soupçonne qu'on va parler de tarifs douaniers. Donc, soyez des nôtres lundi prochain pour Le parc en 30 minutes. Et prenez vraiment la semaine, et même durant l'émission même. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, contactez-nous. Et on a toujours Donald Olivier, fidèle au poste, semaine après semaine. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.